Jamais la Corée du Nord n'avait envoyé de troupes à l'extérieur. Selon le renseignement sud-coréen et américain, ces soldats sont désormais au feu, équipés d'uniformes russes. Ils seraient même en première ligne. Mais qui sont ces combattants? Premier élément de réponse avec Philippe Gros de la Fondation pour la recherche stratégique.
C'est pas évident d'avoir une vision définitive. On sait qu'il y a au moins une partie des troupes qui viennent des forces spéciales, du 11e corps, qui relèverait des forces spéciales nord-coréennes. Ils sont considérés comme des troupes d'élite par les observateurs.
Reste à placer ces pions car il y a trois échelons dans l'armée russe, rappelle Vincent Touré de l'Université de Montréal.
Le premier échelon, c'est de l'infanterie consommable, qui est envoyée par petits groupes entre 3 et 5 hommes par vagues successives pour tester les défenses ukrainiennes et commencer à infiltrer le dispositif, qui sont ensuite appuyés par des troupes plus régulières qui vont manier des armements lourds et sophistiqués, de type mortier, mitrailleuses lourdes, drones, et qui enfin sont appuyés par un troisième groupe, un groupe d'élite, des troupes parachutistes, de l'infanterie navale et des spetsnaz, qui eux vont faire la coordination des feux et qui va agir comme un coup de poing et exploiter.
Alors, ces troupes nord-coréennes, chars à canon ou forces spéciales, Philippe Gros et Vincent Touré privilégient la seconde option.
Il se dit que les Russes les ont formés aux tactiques de base, à manœuvrer avec l'artillerie, à utiliser des drones, mais jusqu'à quel point, c'est pas du tout évident, quoi.
Ce qui apparaît être clair, c'est qu'elles vont être utilisées de la façon dont les Russes utilisent leur infanterie légère, c'est-à-dire par vagues soutenues par leur artillerie et avec des pertes assez importantes.
10 000 hommes, cela reste néanmoins un volume limité, sans compter, précise Philippe Gros, que la barrière de la langue peut poser problème au combat.
Il a fallu apprendre aux Nord-Coréens les termes de base pour manœuvrer. Ils ont un traducteur pour 30 soldats, donc pour en gros un traducteur pour une section. Et puis évidemment, les Russes se heurtent au problème d'interopérabilité qu'il y a à intégrer des troupes dans un dispositif. Il semble qu'une partie des troupes nord-coréennes soit rattachée à une des brigades d'infanterie de marine russe, la 810e. Donc on est là vraiment sur une logique d'intégration tactique de ces unités dans le dispositif russe et pas sur une logique de laisser les forces coréennes occuper un créneau avec leur propre chaîne de commandement, ce qui est le cas le plus difficile à mettre en œuvre en termes d'intégration.
Néanmoins, analyse Elie Tenenbaum, directeur de recherche de l'IFRI, cette force ne sera pas négligeable si les troupes nord-coréennes restent dans la région de Koursk.
Ce qui semble dans un premier temps, c'est qu'elles permettent à la Russie de maintenir son effort principal sur le Donbass, en lui évitant finalement d'avoir à exercer une sorte de balance de force. Elles sont vraisemblablement là aujourd'hui aussi pour être testées, pour voir ce qu'ils sont capables de produire, peut-être pour, dans un second temps, les employer sur une zone plus importante ou plus prioritaire pour la Russie.
Dans l'hypothèse également où l'armée russe viendrait à manquer de ressources, redoutent les renseignements ukrainiens et sud-coréens, ces troupes nord-coréennes pourraient être seulement l'avant-garde d'un contingent futur, cette fois plus étoffé.